Nathan Soulier, avocat au sein du cabinet Bird & Bird, et j'interviens donc sur tout ce qui est les problématiques digitales. Et donc j'accompagne les clients sur ces sujets-là, et donc avec un gros volet en matière de protection des données personnelles et respect de la vie privée. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Je suis également membre de la DIRA et je suis dans les travaux du groupe cybersécurité. Je me suis permis un petit peu de retoucher le titre qui avait été proposé et diffusé, mais on va parler des mêmes choses. C'était juste parce que ça me permettait de bien mettre l'accent sur certains points sur la notion de consentement qui, bah, a un impact, et j'en avais discuté avec Jean-Luc en amont de notre échange aujourd'hui sur ce qui quelles étaient du coup les problématiques que vous aviez pu identifier avec cette question de consentement, parce que ça va avoir un impact sur vos actions de prospection et également sur tout ce qui est gestion des cookies et réglementation autour des cookies. Et donc, clairement, c'est sûr que quand on n'est pas au fait de la matière, ça peut paraître très, très obscur tout cela. On va rentrer dans le vif du sujet avec, parce que je reste quand même juriste, et je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler des textes. Voilà. Donc beaucoup de textes, comme vous le voyez, où ça peut effrayer un petit peu tout le monde. On parle de RGPD, de Directive e-Privacy, qui va bientôt devenir un règlement, une loi informatique et liberté. En France, on a encore des dispositions dans le Code des postes et communication électronique. Donc ce millefeuille, il peut un petit peu nous perdre. Et on va essayer, comme le logo l'illustre, de s'y retrouver. Donc ça, c'est juste pour vous ayez les articulations, et c'est un balayage, mais après, derrière, on va rentrer en détail et essayer de comprendre ce que nous dit cette législation de façon pratique. C'est juste pour vous ayez en tête quand même les textes qu'on va mobiliser. Donc, ce n'est pas un historique des textes, parce qu'il y a des textes qui ont disparu depuis, mais c'est les textes qui sont mobilisés à ce jour pour notre sujet aujourd'hui. Donc, on a une directive européenne qui commence à dater de 2002, la directive e-privacy, et elle a un double impact. Un impact en droit français sur la gestion des cookies. C'est toujours un texte de 2002, et c'est là où on voit que c'est un peu complètement déconnecté, parce qu'on a un texte de 2002 qui vient gérer des technologies qui changent tous les jours. Maintenant, on ne parle clairement plus de cookies, mais on est plus sur du cookieless, du SDK, ce genre de choses. Donc on voit que, bon, pour l'instant, ça tient, mais on attend un nouveau texte. Et la directive européenne, elle a été également transposée dans le Code des postes et des communications électroniques. Et peut-être que ce code vous est obscur, mais en fait, c'est son article 34-5 qui nous intéresse, parce qu'il va venir gérer toutes les règles autour de la prospection. Prospection par moyen électronique, mail, SMS principalement. On a bien évidemment le fameux RGPD. On a ensuite, sur la partie cookie, la CNIL qui est venue en 2020 nous apporter des lignes directrices qui font pas le droit, mais c'est quand même bien mieux de les respecter. On le verra, c'est quand même une spécificité française, parce qu'on devrait normalement, vous le voyez, c'est des textes européens, on devrait se dire, ben, c'est partout pareil, et on le verra quand même, parce que j'essaierai tout le long de vous faire quand même un petit focus quand il y a des spécificités dans d'autres pays. Enfin, ça sera surtout en Allemagne, parce que c'est là où il y a des différences, mais vous, voilà, malgré un cadre européen, on a des spécificités franco-françaises, et donc ces deux délibérations de la CNIL sont très importantes. Et un règlement e-privacy qui doit venir normalement supplanter la directive e-privacy de 2002 Sauf que là, c'est un peu une arlésienne. Ce texte devait arriver en même temps que le RGPD. On est en 2022. Le RGPD est rentré en vigueur en 2018. Il a été adopté en 2016. Mais on n'a toujours rien. Les enjeux sont très forts autour de ce texte. Les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on a beaucoup de lobby, de lobbying, parce que ben, l'impact, il est extrêmement fort. Ça va venir, du coup, gérer justement toutes ces possibilités de comment tracer les utilisateurs, faire de la mesure d'audience et gérer après derrière toutes les actions de e-marketing. C'est un secteur qui vaut des milliards d'euros. Donc, personne pour l'instant n'arrive à trouver un, on n'arrive pas à trouver de consensus. C'est clair jusqu'à présent. Enfin, n'hésitez pas, hein, si à un moment je ne suis pas clair, après, bien évidemment, on échangera, mais si vous voulez que je reprécise tout de suite sur un point, il n'y a pas de problème. Oui.
Je disais, ok, pardon, pas de soucis.
Pardon. Donc, maintenant que j'ai fait quand même, j'ai pris ma casquette de juridique et je vous ai fait un état des textes, mais c'était juste pour vous rendre compte que c'était quand même 1 000 feuilles qu'il y avait beaucoup de choses et en plus qui se croisent, il faut savoir mobiliser tous les textes, donc c'est quand même un peu compliqué. Maintenant, on va débroussailler tout ça. En tout cas, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se pose une minute, c'est sur une seule définition. C'est bien évidemment la définition de consentement. Le consentement, on a une définition qui est dans le RGPD. Et donc, on nous dit que c'est le consentement d'une personne, c'est une manifestation libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle une personne accepte, avec un acte positif, que des données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement. Donc là, les mots que j'ai mis en gras, ils sont extrêmement importants. Le côté libre, c'est-à-dire que le consentement des gens, on ne va pas pouvoir le lier. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, dire à une personne, j'accepte de recevoir la newsletter en même temps qu'elle accepte vos CGV. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, ce point ce mot est important parce qu'en pratique, on pourrait être tenté de faire accepter du langage juridique, d'autres textes, etc. Mais ce n'est pas possible. Et la position notamment de la CNIL, mais même des autres autorités de contrôle en Europe, elle est très établie là-dessus. Vous ne pouvez pas lier l'acceptation, par exemple, à recevoir de la newsletter à l'acceptation de CGU, CGV ou autre chose. Le consentement aussi, il est spécifique. Donc, vous ne pouvez pas faire une casse fourre-tout, c'est-à-dire que j'accepte de recevoir les newsletters de la société ABCD, mais je ne peux pas derrière mettre toute une famille de choses que j'aimerais pouvoir faire consentir à mon client ou à mon prospect. Éclairer, ben, ça veut dire qu'il faut un minimum d'informations et on y reviendra. Et univoque, donc ça rejoint le fait qu'il faut un acte clair, et donc là aussi, pas de casse précochée, pas de consentement déduit, et donc on le verra, le fait qu'il faut un acte clair, bah, c'est pour ça que maintenant, et ça c'est la CNIL qui l'a dit dans ses délibérations de 2020 qu'on a vu juste avant, bah, un bandeau cookie. On ne peut pas considérer que la poursuite de la navigation, c'est un acte clair, positif, qui démontre l'acceptation à l'utilisation des cookies. C'est pour ça que maintenant, un bandeau doit être persistant tant que la personne n'a pas exprimé son consentement ou le refus de l'utilisation des cookies, donc un refus de consentement. Donc voilà, une définition. Il n'y en a qu'une seule que je vous présente aujourd'hui, mais c'est celle-ci qui est au cœur à la fois de nos sujets sur la prospection, à la fois de nos sujets sur les cookies, qu'il faut avoir en tête, mais qui aura un impact. Il y a 4 mots à retenir, et ces 4 mots, on va les retrouver tout le long de la présentation. Parce que si vous ne respectez pas ça, bah, la CNIL va considérer que votre consentement il n'est pas valable et du coup, bah, votre base client, elle va votre base de prospects clients qui auraient accepté de recevoir de la prospection, bah, vous pourrez, elle ne sera pas utilisable, il faudra la supprimer en cas de contrôle. Idem concernant les profils qui auraient accepté les cookies, mais par exemple qui ne seraient pas passés par un bouton accepté. Ben, en fait, il n'y a pas eu d'acceptation, donc derrière, ça ne vaut rien. Donc maintenant, voilà, on va rentrer donc en pratique. On va rentrer en pratique d'abord sur la prospection. Donc, j'appelle prospection en bon français. On va plus parler de direct marketing si on fait des anglicismes. Je vais d'abord faire un focus sur le B2C, puis sur le B2B, parce qu'on a une spécificité en France sur le B2B qui n'est pas partagée pour le coup par tous les pays européens, notamment par nos amis outre-Rhin, où ils appliquent au B2B le même régime qu'au B2C. Donc, si vous réalisez des actions de prospection par email auprès de particuliers, la règle, le principe, c'est consentement obligatoire. Idem, si vous envoyez des SMS, la règle, le principe, c'est le consentement obligatoire. Le texte, le fameux article du Code des postes et des communications électroniques nous parle aussi du troisième mode de communication électronique, qui sont les automates d'appel, mais qui, à mon sens, est de moins en moins utilisé. Donc, on se focusera sur le mail, le SMS. Donc, on nous dit qu'il faut venir chercher.
Oui. Ça veut dire que, parce que je rebondis sur automate d'appel, ça veut dire que tous les gens qui nous harcèlent avec des comptes formation ou des changements d'opérateur électrique, c'est pas considéré comme des automates d'appel, c'est de la prospection téléphonique et donc ça tombe pas sous le même coup.
Exactement. Exactement. L'automate d'appel, c'est vraiment le robot. Alors que le reste, c'est la prospection électronique par téléphone, et du coup, on est sur un régime plus souple où là, il faut avoir permis à la personne de s'opposer, mais l'action, on peut la faire s'il y a une bonne information, etc.
Malheureusement, d'accord.
Donc, il nous faut un consentement. Donc, le consentement. C'est à minima informer qui va faire l'action de prospection, pourquoi, et un rappel du fait que la personne, à tout moment, elle peut venir s'opposer. Donc là, je reprends l'exemple de mention que nous propose la CNIL. Je pense qu'elle peut être améliorée à la fois pour être plus user-friendly, plus catchy, mais également parce que si certains projets sont pan-européens, dans certains pays, on va demander à avoir vraiment une plus grande information. Il faut vraiment être clair sur qui le fait. Donc, c'est la société ABCD. Pourquoi proposer des publicités sur les nouveaux produits et services? Et dans certains pays, on ne va pas simplement faire un renvoi à en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, mais il faudra bien écrire noir sur blanc, par exemple, qu'on a un droit d'opposition qui peut être exercé à tout moment en cliquant ici, par exemple, et puis on refait un renvoi à la politique de confidentialité. Mais voilà, donc de base, le consentement, ça se limite, ça prend la forme en matière de prospection avec cette case à cocher qui est très importante à mettre en place et aussi à garder la preuve de votre consentement. Parce que si jamais un jour vous avez un litige avec un consommateur qui vient vous dire « mais moi, j'en peux plus de recevoir vos emails alors que j'ai jamais accepté », il faut que vous ayez la possibilité de lui dire « non, tel jour, vous avez accepté et voilà d'ailleurs le texte que vous avez accepté ». Et ça, c'est très important, la preuve, parce que maintenant, des outils de CRM très connus sur la place dans le marché du CRM permettent cette gestion de la preuve et cette gestion déjà du consentement et cette gestion de la preuve, où on voit en base quels sont les profils ce qu'on appelle les profils opt-in et ceux qui ne sont pas opt-in. Donc là, c'est quand même un point important, c'est que sur le front d'un site web, oui, c'est bien d'avoir mis la case à cocher, sauf que derrière, dans le back et dans vos outils, il faut qu'il y ait quand même une possibilité de gestion de ce consentement. Ça veut dire savoir qui a consenti et à quoi. Parce que c'est bien de se dire, ah bah oui, il a cliqué sur une case, mais en fait, la case, elle disait quoi. Ça, c'est très important. Et après, derrière, c'est aussi important parce que on a des règles en matière de conservation. Donc, un prospect, on va considérer qu'à partir du moment où j'ai collecté sa donnée, je peux aller le prospecter. Et la CNIL nous dit pendant 3 ans à compter du dernier contact. Et le dernier contact, ce n'est pas simplement une ouverture de mail, c'est un clic à l'intérieur d'un email. Donc, un prospect qui vous rentrez en base, que vous allez solliciter, bon, déjà, je trouve que si pendant 3 ans, il ne mord pas à l'hameçon, c'est que bon, il ne va jamais être converti. Mais en tout cas, au bout de 3 ans, il faut le considérer comme n'ayant plus consenti. Et donc, encore une fois, si votre base n'est pas capable de gérer ça, bah, ça veut dire qu'en termes de durée de conservation derrière, vous ne serez pas bon. Donc ça, c'est très important à savoir manager. Donc ça, le principe, c'est venir chercher le consentement. On a quand même des possibilités d'interagir avec le consommateur, avec quelques exceptions et parfois où là, on n'a pas le consentement qui est requis. On a le message de service. Alors, le message de service, cette règle-là, elle va s'appliquer également, on le verra, au régime B2B tout à l'heure. L'idée, là, c'est de dire, j'envoie du message, c'est par message de prospection et il correspond à un besoin d'interagir avec le client en raison du projet de contrat que j'ai avec lui, en raison d'un achat qu'il a passé auprès de ma société. Donc, ça va être, par exemple, l'information sur un retard, une suspension de service, des modifications de conditions générales ou tarifaires. Voilà, on peut avoir différents types de communications, des fois des communications obligatoires, un rappel produit, etc. Par principe, ces messages, c'est des messages de service. Sauf que la tentation qu'on voit dans les sociétés quand on envoie, par exemple, un message sur les modifications de conditions générales ou tarifaires, c'est où est-ce qu'on va mettre la limite entre j'ai quelque chose de très neutre qui va informer que mon abonnement Netflix dans 3 mois, il va prendre 2 euros supplémentaires et faire de la publicité sur mes nouveaux services. Par exemple, ah oui, on prend 2 euros supplémentaires, mais vous avez vu, maintenant, on offre des produits de gaming. Là, c'est très difficile parce que vous allez avoir un contenu qui peut être hybride. Et si le contenu devient hybride, il tombe dans le champ restrictif des messages de prospection et donc soumis à consentement.
Nathan,
donc,
ouais. Si tu me permets une question. Le texte de la législation sur les communications, il est très très clair sur l'usage des produits comparables qui ne nécessitent pas un consentement préalable. Donc, le fait de proposer, à mon sens, hein, mais de proposer dans un message des informations une augmentation de prix avec l'augmentation d'un principe sur un produit existant, on est sur des clients, donc on n'est pas en prospection externe et on n'est pas soumis à consentement préalable.
Si je Alors, prends de la là, enfin, ouais. là, vous parlez de l'exception de soft opt-in qui est juste sur la slide d'après, mais on n'est pas à ce stade. Là, vraiment, parce que justement, vous parlez de prospection. Là, on est sur j'informe mon client sur le fait que, par exemple, il a un abonnement et son abonnement, il va augmenter. J'informe mon client que sa commande, elle a un retard. J'informe mon client
que je vais rappeler le produit
qu'il a acheté. Et là, du coup, c'est juste que je dis attention parce que j'ai déjà vu certaines sociétés vouloir tomber dans le message de service, mais en fait, à la fin, on faisait de la publicité. Je fais un rappel de produit, ben, je ne suis pas à l'aise de faire un rappel de produit, donc je propose un bon d'achat. En fait, non, si je propose un bon d'achat, je viens re-solliciter le client, je viens redémarcher, re-solliciter son envie de passer à un achat d'un produit ou d'un service auprès de ma société. Et là, du coup, on retombe dans le régime soumis à consentement. Donc, il faut faire très attention. Quand on envoie ces messages de service, on a un discours qui est neutre. Tout ce qui va être logo, strapline, etc., ça ne va pas être considéré comme du message publicitaire, mais tout le reste, tout ce qui pourrait être considéré comme de la pub, il faut l'éviter, sinon on ne bénéficie pas de l'exception. Donc ça, c'était le point sur le message de service, et je reviens juste sur la slide d'après sur l'exception de soft opt-in. On a une autre exception à la prospection qui ne mérite pas de consentement, c'est la prospection non commerciale. Donc, on va être sur tout ce qui est œuvre caritative. Donc, si vos sociétés, par exemple, elles font un appel aux dons, elles ont une fondation, etc., vous pouvez utiliser votre base client sous réserve toutefois que la personne elle a été informée au moment où elle a été embasée que son adresse email pourrait être utilisée à cette prospection non commerciale. Et au moment où elle est embasée, elle avait une case à cocher pour refuser de recevoir cette prospection. Donc là, on va être sur de l'opt-out, non plus sur de l'opt-in. Et puis après, tout le long de sa vie de prospect, il faut qu'elle puisse s'opposer, soit par exemple par un lien de désinscription dans le footer d'un email, soit par exemple en écrivant directement à vos services et en disant bah, « je ne peux plus recevoir de… » pardon, de prospection, et du coup, vous obtempérez, si je puis dire, à sa demande. Et donc, on arrive à l'exception donc de soft opt-in dont on vient de parler, dont qu'on a évoqué juste avant. Donc, le soft opt-in, c'est… J'ai un client, au moment de son achat, j'ai dû collecter son adresse email et je l'ai informé que je pourrais utiliser son adresse email pour s'opposer, pour le prospecter, pardon, pour des produits ou services similaires. Et c'est la même personne qui le fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déléguer on ne peut pas en profiter pour vendre des services par une filiale ou que sais-je. En tout cas, c'est. J'achète auprès de Cdiscount et Cdiscount peut, pour des produits ou services similaires, réutiliser mon adresse email sous réserve de m'en avoir informé au moment de la collecte et sous réserve que j'ai pu m'y opposer. Encore une fois, c'est comme la prospection non commerciale et au moment de la collecte et après tout le temps en pouvant me désinscrire des emails par un lien dans le footer ou en contactant directement ces discounts, pour suivre l'exemple. Donc, ça, c'est l'exception de soft opt-in. Donc là, c'est on va venir s'opposer. Attention, cette exception, c'est quand on a pris l'adresse email au moment de la vente ou d'une prestation de service. Donc, ce n'est pas au moment où une personne a créé un compte client. Ça, c'est un point très important qui était très longtemps discuté et que la CNIL est venue trancher récemment. Quand une personne crée un compte client, parce que maintenant sur les sites, voilà, on crée un compte client, comme ça on peut bénéficier à l'avance d'avantage, etc. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de prestation de service, donc on ne colle pas au texte et donc on ne peut pas bénéficier de l'exception qui vous est affichée maintenant. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Pareil, la prospection, elle est sur des produits ou services similaires. Donc, tout à l'heure, je parlais de Cdiscount. Cdiscount, on peut tant acheter des chaises de jardin qu'un ordinateur. Si j'ai acheté un ordinateur, Cdiscount ne peut pas venir me démarcher pour des chaises de jardin. Parce qu'on n'est pas sur un produit similaire à un ordinateur. Voilà. Donc, le principe, c'est le consentement. Pas besoin de consentement quand je fais une information pour l'exécution du contrat, etc. Pas besoin de consentement, mais une information, une possibilité de s'opposer quand je fais de la prospection qui n'est pas commerciale, donc principalement caritative. Et pas besoin de consentement lorsque je tombe dans cette exception du soft opt-in, mais vous le voyez, il y a quatre conditions à remplir et qu'il faut bien, voilà, il faut bien s'assurer que toute la grille est bien cochée parce que sinon, derrière, bah, on va considérer que vos actions de prospection, elles sont illégales. Donc ça, c'était le régime B2C. On a la chance en France d'avoir la CNIL qui fait une interprétation plus souple du texte pour le B2B. Et quand vous lisez le code des postes et des communications électroniques, ça ne ressort pas du tout, cette exception-là. Mais on a cette interprétation-là souple de la CNIL concernant les rapports B2B, où là, on peut venir démarcher un professionnel sans consentement, mais il faut des conditions, et vous allez voir, c'est des conditions qu'on retrouvait sur les autres régimes d'exception. Encore une fois, la personne, elle a dû être informée que son adresse email, elle allait être utilisée à des fins de prospection. Ça encore, ça veut dire que dans vos formulaires, quand vous rencontrez des personnes, etc., il faut qu'à un moment, il y ait une information. Quand vous collectez leur adresse email, il faut que l'objet de la sollicitation soit en rapport avec sa profession. Je vais y revenir sur le sujet. Et dernière condition, il faut que, encore une fois, au moment où elle a donné son adresse email, elle a pu s'opposer à cette utilisation, et puis après, elle peut s'opposer à tout moment. Et donc, s'opposer, ça veut tout simplement dire une case à cocher. Je ne souhaite pas recevoir de la part de la société ABCD concernant ces nouveaux produits et services. Ce sujet, il est important, notamment avec en B2B, avec la tentation de faire des techniques de scrapping, notamment sur LinkedIn, qui peuvent être un levier facile hein, d'identifier rapidement des profils et derrière de mener des campagnes de prospection. Sur ce sujet-là, il y a à la fois une partie, vous risquez de vous mettre en manquement contractuel parce que LinkedIn interdit expressément qu'on fasse du scrapping sur sa base. Dans ces conditions générales d'utilisation que vous acceptez quand vous créez un profil. Et l'autre problématique derrière, ben, c'est que la personne, elle n'a pas été informée que vous allez utiliser son adresse email à des fins de prospection. Et le risque surtout, c'est qu'elle soit sollicitée par rapport, pas en lien avec sa profession. Donc, pour l'exemple, c'est que la CNIL est venue sanctionner une société, la société Nestor, qui avait fait du scrapping sur LinkedIn. Elle avait extrait plus de 650 000 contacts. Et son cœur d'activité, c'est la restauration en entreprise, la restauration de midi en entreprise, proposer des plats pour le midi, pour les salariés. Elle a considéré qu'elle était dans la sphère B2B, puisque c'était pas du tout, c'était pour amener les plats sur le lieu de travail. Et sauf que les personnes qu'elle a contactées, c'était des ingénieurs en agronomie, des personnes au marketing. Il n'y avait aucun lien avec la restauration. Donc, on a considéré que les personnes ne pouvaient pas s'attendre, en ayant mis leur adresse email sur LinkedIn, à être démarchées pour des services de restauration. Et donc, la CNIL a estimé que la technique de Nestor n'était pas valable. Il y avait un manquement. Elle aurait donc dû demander le consentement. Il y avait bien évidemment, elle n'avait pas obtenu le consentement des personnes. Et donc, Nestor a été condamné à une amende, je crois, autour de 20 000 euros, mais surtout a dû arrêter de solliciter sa base de 650 000 clients. Donc, là aussi, sur certaines activités, on peut voir des fois des sociétés où finalement, le cœur de métier, elles ont une base client qui peut paraître importante. Mais on le voit, c'est là où, en amont déjà du projet, ça avait été, les choses n'avaient pas été faites correctement, pas dans les règles. Du coup, la société, elle perd énormément de valeur. Si du jour au lendemain, elle se retrouve de 20 000 clients quotidiens et plus 650 000 prospects à plus que 20 000 clients quotidiens et plus du tout de prospects. Donc, c'est aussi important de bien avoir ces règles en tête au moment de la constitution de sa base. Et c'est aussi pour ça que, avant toute grosse campagne d'activation, toute grosse campagne d'embasement qu'on veut faire, bien rappeler, bien avoir en tête les règles qu'on vient de voir, et s'assurer que la communication qu'on va faire, elle respecte bien ces règles, c'est hyper important parce que bah derrière, après, on se retrouve avec des bases qui valent rien. Nestor, c'est tout simplement plusieurs personnes qui se sont dit, mais pourquoi je reçois ces emails-là? J'ai jamais été en contact avec cette société-là. Et du coup, derrière, des plaintes, et après, ça s'est enchaîné par un contrôle de la CNIL. Donc, voilà ce que je pouvais vous présenter sur les enjeux de consentement en matière de prospection. Alors, j'ai été sur un premier niveau d'information, parce que j'en avais discuté avec Jean-Luc, voilà, après sur les attentes, c'était déjà un premier niveau d'information. Après, et j'en reviens rapidement sur la définition, il faut du coup une information qui est éclairée. J'ai entendu tout à l'heure une personne, et je m'excuse, j'ai oublié le prénom, parler de marketing automation, etc. Dès que l'adresse email, elle va être utilisée pour activer des personnes, non plus de façon traditionnelle par email, mais derrière, c'est utilisé pour faire du Facebook Custom Audience ou similaire avec les outils de la suite Google. Il faudra venir aussi informer la personne. Bah, que son adresse email, c'est pas juste pour lui envoyer des emails, mais c'est aussi pour la solliciter hors de l'environnement de votre société, mais également sur les réseaux sociaux. Derrière, voilà, il faut que ça apparaisse à la fois au moment du consentement, mais également dans l'information que vous allez délivrer. Hop, ici. En savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, là, bien évidemment, ce texte souligné, c'est un hyperlien qui pointe vers votre politique de confidentialité. Et quand vous faites ces activités-là de custom audience, de lookalike et de toute joyeuseté qu'on peut faire avec les outils Google et Meta, c'est très important derrière d'apporter une information. Et d'ailleurs, vous êtes tenu, si vous lisez par exemple les conditions Meta, vous êtes tenu d'apporter cette information aux personnes dans votre politique de confidentialité. Donc, et là, je ne parle que d'un cas en particulier sur ces usages e-marketing avec les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a plein d'usages marketing. C'était juste pour dire, là, j'ai vraiment fait les fondements, et après, c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent, mais avec du coup des niveaux d'information supplémentaires, plus l'adresse email va être utilisée pour faire autre chose que simplement envoyer un email. Voilà. Après, on pourra revenir sur ces points pendant les questions. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose du coup qu'on passe sur la partie consentement et puis tous les enjeux cookies. Alors, donc, jusque-là, on a vu donc utilisation de l'adresse email et je ne l'ai pas mis, mais numéro de téléphone si on fait du SMS et quelles sont les règles B2C, B2B. Maintenant, on va mobiliser toujours cette question de consentement et finalement toujours les mêmes textes, moitié RGPD, moitié directive e-privacy, pour s'attaquer à la question de la gestion des improprement appelés cookies. Parce qu'on va le voir, la législation, elle ne s'applique pas qu'aux cookies et du coup, finalement, beaucoup d'activités de suivi visiteurs tombent dans ce régime-là, dans cette législation. Et donc ça, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la section cookies et traceurs. Je pense que le terme traceur est plus adapté. D'ailleurs, le texte ne parle pas de cookies, hein. Ça, c'est une déformation. Donc, première question, est-ce qu'on place des cookies, des tags, des clear pixels, des SDK? Est-ce qu'on fait du fingerprinting? Tout ça, si la réponse est oui, le consentement est obligatoire. De façon plus générale, il faut se poser la question, c'est est-ce que ma techno, elle permet d'accéder à une information qui est dans le terminal de l'utilisateur ou de stocker une info dans le terminal de l'utilisateur? Si la réponse, c'est oui, le consentement est obligatoire. Là, il faut que ça soit. C'est très important ce point parce que très souvent, on limite ça aux cookies. Et du coup, derrière, on va dire j'ai pas de cookies, donc je ne suis pas soumis à ça. Par exemple, sur une application mobile, on n'utilise pas le cookie. Donc, on va dire je ne suis pas soumis à ça. Pour autant, on va utiliser derrière des SDK. On va derrière s'appuyer sur un Android ID ou l'équivalent pour Apple. Donc, on va récupérer le numéro du téléphone, l'identifiant unique du téléphone. Et derrière, puisqu'on accède par exemple à cet identifiant unique du téléphone, on tombe dans la législation. Ça, c'est hyper important d'avoir ce point en tête. Et quand on parle de terminal, on va spontanément parler ordinateur, on va parler smartphone, mais il faut aussi, c'est tout terminal. Donc ça va être aussi une télé connectée, ça va être aussi une console de jeux vidéo, ça va être aussi un objet IoT. Donc ça, c'est hyper important de se dire, attention, je ne suis pas que dans l'univers avec écran, enfin écran classique, ordinateur, smartphone. Et c'est là où ça, il y avait dans le titre, c'était aussi cookieless. Qu'est-ce que je fais maintenant? On parle de technologie cookieless. On a Google maintenant qui nous propose des services qui, soi-disant, permettent un meilleur respect de la vie privée avec sa solution Flock, qui est une solution donc de marketing par cohorte. La cohorte. L'idée, c'est non plus de savoir quel individu, alors c'est quel numéro, par exemple, device, va visiter tel site, s'intéresse à tel produit, et du coup, derrière, je peux le marketer en fonction des intérêts que j'ai compris de lui. L'idée, c'est de faire ça par cohorte d'utilisateurs. Donc, on n'est pas à un niveau granulaire d'une seule personne, on va faire ça par un ensemble de personnes qui auraient exprimé des intérêts communs dans des produits et des services, ou en tout cas qu'on aurait ou des profils qu'on aurait compris d'eux par rapport à leur classe sociale, leur lieu géographique, etc. La cohorte, le système de cohorte, alors il est assez technique, mais il fonctionne. Pour pouvoir placer une personne dans une cohorte, ça veut dire qu'à un moment, on a été capable de, et ça c'est Chrome qui le fait, Chrome est capable de regarder quel est le site visité et du coup d'agréger tout ça. Et après, on fait tout ça sous forme d'agrégat. Donc oui, on n'est plus au niveau de l'individu, on est au niveau d'un ensemble d'individus. Alors, bon, il y a des débats sur ces sujets-là, mais je ne vais pas complexifier aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la cohorte vient lire des informations sur le navigateur de la personne, voire sur son OS. Donc, puisque, et on est sur la définition, on vient accéder à des informations, la CNIL, elle est nette, claire sur ce sujet-là. Elle nous dit, moi, la cohorte, je considère que notamment la technologie Flock de Google, elle tombe dans le champ de la législation. Puisque la technologie, elle vient accéder à un identifiant cohorte qui est sur le terminal de l'utilisateur. Et donc, on tombe dans la législation traceur. Donc, ça, c'est très important. Et puis, ça, c'est aussi parce que souvent, on nous présente les choses, nos juristes, en nous disant, mais non, mais il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de cookies, sauf qu'en fait, il y a plein de super outils derrière qui permettent de connaître les utilisateurs, les visiteurs, et même si ce n'est pas des cookies, si ça s'appelle autrement, ça tombe dans la législation. Donc, comme on le voit, quand on fait appel à ces technos-là, le consentement il est obligatoire. Et donc, cette fois, bah, le consentement il prend quelle forme? donc le consentement, on va le faire à travers une bannière cookie. Sauf qu'une bannière cookie, c'est un peu plus complexe que juste j'accepte les cookies. Vous l'avez vu maintenant, les bannières cookies, elles sont plus longues, plus grandes, plus consistantes. Pourquoi? Ben parce que ces fameuses délibérations de la CNIL de 2020 qui est venue charpenter la position française en matière de cookies, de traceurs, et qui nous dit donc l'utilisation des cookies, c'est d'abord une information préalable et avec derrière 5 points d'information qu'il faut faire figurer dans la bannière cookie. Donc on va avec un exemple les descendre rapidement un à un. Et cette information-là, elle est importante. Il faut qu'elle soit, que les 5 points soient présents parce que derrière, encore une fois, la CNIL, sinon elle va estimer que votre bandeau cookie, il manque des infos. S'il manque des infos, votre consentement, il n'est pas éclairé. Et comme il n'est pas éclairé, vous vous rappelez, un consentement éclairé, c'est le terme éclairé, ça faisait partie de la définition de consentement. Si votre consentement, il n'est pas éclairé, votre consentement n'est pas valable. Et donc, le dépôt de cookie ne sera pas considéré comme légal. Première information, c'est informer de l'identité du ou des responsables de traitement. Donc, déjà, informer donc vous, propriétaire du domaine, que vous déposez des cookies. Mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas que vous qui déposez des cookies. Il y a sûrement des partenaires qui le font. Vous avez ouvert l'accès à votre site et vous avez fait autoriser des dépôts de cookies de type réseaux sociaux, de type mesure d'audience, etc., etc. Et ces personnes-là n'agissent pas nécessairement que comme votre sous-traitant. Elles peuvent être votre partenaire. Du coup, là, il faut qu'on ait une liste des partenaires qui déposent des cookies. Ça, c'est un point important et vous le retrouvez de plus en plus maintenant sur les bandeaux. Le mot partenaire, il est en surbrillant. C'est quand on clique, on a une liste des différents partenaires qui s'affichent. L'exemple de bandeau qui s'affiche, c'est comme pour le consentement. Je l'ai, pour info, je l'ai repris du site de la CNIL. Donc, premier point d'information, qui dépose les cookies? Deuxième information, pourquoi je dépose des cookies? Donc, il faut présenter les finalités. Donc là, on nous dit publicité personnalisée, publicité géolocalisée, partager du contenu sur les réseaux sociaux. Là, on a une présentation rapide qui permet rapidement d'offrir à la personne, de lui permettre de comprendre à quoi elle consent ou à quoi elle peut refuser. Attention, parce que là, la présentation dans le bandeau, elle est rapide, mais bien souvent, il va être nécessaire d'apporter dans un deuxième niveau, c'est le fameux « pour en savoir plus », par exemple, qu'on voit sur les bandeaux cookies, une information plus détaillée. Et là, vous le voyez, une publicité personnalisée avec l'ensemble des sous-finalités qui sont poursuivies. Donc ça, c'est très important, une information détaillée. Je fais le parallèle avec notre prospection tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'était la société ABCD, donc ça, c'était le responsable de traitement, va utiliser votre adresse email pour de la prospection pour ses produits et services. C'est la même idée, il faut venir informer. Et si, par exemple, vous faites de la prospection sur les réseaux sociaux, il faut qu'au niveau de votre consentement, ça soit dit pour que la personne ait conscience de à quoi elle consent de façon éclairée, donc de façon exhaustive. Il faut que l'information soit complète. Une troisième information, c'est la possibilité d'accepter ou refuser les cookies. Alors, j'ai dû me planter, je m'en excuse dans mon schéma. Vous regardez du coup, vous regardez ici donc pour refuser les cookies. Donc, vous le voyez là. Tout refuser, tout accepter. Donc, une possibilité de refuser les cookies. Et on retrouve ça sur l'entrée du bandeau, mais on va aussi retrouver ça dans le deuxième niveau. avec une possibilité d'accepter, refuser. Ici, si je veux accepter que cette finalité, je coche la croix. Donc, encore une fois, toujours rappeler que le consentement, il doit être granulaire. Donc, encore une fois, je ne fais pas un package. Donc là, on vient assouplir un peu le texte en disant finalement, on peut d'un coup tout refuser ou tout accepter, mais il faut aussi toujours offrir à la personne la possibilité d'accepter ou refuser de façon granulaire chaque finalité. Donc ça, c'est un point clé. Quatrième information pour que notre bandeau il soit conforme avec les délibérations de la CNIL, c'est les conséquences en cas de refus ou d'acceptation des cookies. Donc, bon, là, la CNIL, elle ne le met pas sur le premier bandeau. En général, maintenant, on voit le texte sur le premier bandeau en disant, bah, en refusant, vous ne pourrez pas, par exemple, on le fait un petit peu de cette façon-là, bénéficier de publicités personnalisées, etc. Mais du coup, là, on peut se dire que l'information, elle est déportée dans la politique cookies dans laquelle on va indiquer bah, ce qui ne va pas se faire ou se faire en fonction du refus ou de l'acceptation des différents cookies. Et après, donc, on a un dernier point, c'est la possibilité, et ça, c'est comme vous vous rappelez tout à l'heure sur les différents schémas de prospection, où à tout moment, la personne, elle devait pouvoir s'opposer à ce que son adresse email soit utilisée à recevoir de la publicité, alors même qu'à un moment, elle aurait pu dire « j'accepte de recevoir la publicité », mais à tout moment après, derrière, il faut qu'elle puisse revenir sur son choix. C'est la même idée avec les cookies. Il faut qu'à tout moment, on puisse retirer son consentement. Et donc là, la CNIL vient nous dire, il faut voilà, qu'il y ait à un moment un lien. Donc là, elle a un bouton flottant. On peut penser à d'autres moyens qu'un bouton flottant, mais il faut que, quelle que soit la page, je puisse accéder rapidement à un outil qui me permet de retirer mon consentement. Donc, là, on le voit sur les cookies, c'est, on se base toujours sur l'idée du consentement. La façon de recueillir ce consentement, elle est un peu plus détaillée que pour la prospection par email, par SMS, mais on retrouve quand même les mêmes principes. C'est juste que là, il y a un petit peu des étapes un peu plus détaillées par les délibérations de la CNIL. C'est le principe, mais on a toujours, comme tout à l'heure, pour la prospection, des exceptions. Et donc, ces exceptions, ça va être le fait d'être sur des traceurs qui sont nécessaires pour l'utilisation du site. Donc, par exemple, pour la gestion du panier d'achat, si vous n'avez pas de cookies, vous ne pouvez pas retenir en mémoire les biens mis dans le panier d'achat. Donc là, ça ne nécessite pas de consentement. On va avoir tout ce qui est en lien avec les sécurités, tout ce qui va être du coup log, enfin accès dans un univers logué. Bien évidemment, un traceur qui va retenir le choix des personnes sur est-ce qu'elles acceptent les traceurs ou est-ce qu'elles n'acceptent pas les traceurs. Et traceur également de personnalisation de l'interface, mais surtout, certains traceurs de mesure d'audience peuvent être exemptés du consentement sous réserve de remplir de nombreux critères qui, pour l'instant, Google Analytics ne remplit pas, mais si vous allez sur le site de la CNIL, elle a fait un programme par rapport à ces mesures, traceurs de mesures d'audience exemptées. Et du coup, les sociétés mettent leur dossier à révision par la CNIL, et la CNIL dit si elle estime que la solution remplit ou pas les différents critères exigés pour bénéficier de l'exemption de consentement alors même qu'on est sur un traceur de mesure d'audience. Et donc ensuite, sur son site internet, elle a listé les différentes solutions qui sont exemptées de consentement. Donc là, encore une fois, vous l'avez vu, le consentement, la règle, certaines exceptions de pure qui sont sur la pure fonctionnalité du site, avec un petit peu cette extension sur le côté mesure d'audience qui va être justifiée parce qu'il faut que vous ayez quand même un suivi sur la charge du site pour pouvoir derrière s'assurer que les serveurs sont correctement dimensionnés, etc. Vérifier qu'il n'y ait pas des problèmes sur vos différentes pages, etc. Et là, voilà, ce sont les seules exceptions sur la possibilité d'utiliser des cookies et différents traceurs. Voilà ce que je pouvais vous présenter donc sur cette partie cookie consentement et puis tout à l'heure du coup la partie prospection et consentement. Et donc je vous propose que maintenant nous en discutions tous.
Merci beaucoup en tout cas Nathan. C'était à la fois clair pour un sujet qui est quand même, je trouve, extrêmement touffu. Merci de ces éclaircissements.